Et le journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils ont quitté leur pays il y a des années et y sont renvoyés de force. À la une ce matin, la détresse des migrants haïtiens expulsés par les États-Unis et de retour à Port-au-Prince ces dernières heures dans le chaos le plus total. Nous sommes sur place. Diffuser davantage la culture des soins palliatifs en France. Le nouveau plan sur la fin de vie est dévoilé ce matin. Il est très attendu, vous l'entendrez, par les associations. Dans ce journal aussi, le budget 2022 examiné par le gouvernement, alors qu'un ministre en exercice est convoqué au tribunal cet après-midi, et la mode de seconde main qui investit les grands magasins.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui l'écrivaine Nina Bouraoui. Elle publie Satisfaction aux éditions Lattès.
France Inter.
Les images, Alexis, choquent l'Amérique depuis ce week-end.
Ces photos de policiers à cheval en train de repousser sèchement des migrants haïtiens à la frontière sud des États-Unis. Des milliers d'entre eux s'y étaient massés sous un pont. Mais depuis 72 heures, les autorités américaines les renvoient par centaines vers leur pays d'origine, sans même leur permettre de déposer une demande d'asile. Ces expulsions scandalisent même les proches de Joe Biden. En témoignent ces mots très forts hier soir du chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer.
À l'instant, on me dit qu'il y a encore 4 vols programmés pour expulser ces demandeurs d'asile. Retour vers un pays qui ne peut les recevoir. Une telle décision défie le sens commun et cela défie aussi la décence commune et tout ce qu'est l'Amérique.
Renvoyé vers un pays qui ne peut les recevoir, affirme Chuck Schumer. Beaucoup de ces migrants avaient quitté Haïti il y a des années. Ils sont donc forcés d'y revenir brusquement dans le contexte que l'on connaît, crise politique, économique, juste après un séisme. Alors à l'arrivée à Port-au-Prince, rien n'est prêt pour gérer un tel afflux. Sur place, Amélie Barret.
Les esprits s'échauffent sous les petites tentes où les migrants arrivant par centaines chaque jour sont enregistrés. Certains expulsés avaient quitté Haïti depuis 5, 7 ou parfois plus de 10 ans. Beaucoup ont eu des enfants dans les pays d'Amérique latine où ils ont séjourné. Aujourd'hui, ils sont en colère contre le gouvernement américain qui les renvoie vers le chaos.
Tremblement de terre dans un pays où il n'y a pas de président, dans un pays de misère, rempli de voleurs, dans un pays où il n'y a pas de travail. Les Vénézuéliens, les Colombiens, eux, ils restent incarcérés. Il n'y a que nous, les Haïtiens, à être expulsés. Seulement les Haïtiens. Ma fille est née au Brésil et la voilà à vivre dans un pays de misère. Pourquoi font-ils ça? Renvoyez ses familles, ses enfants. Haïti n'est pas bon. Pourquoi vous faites ça?
Cette jeune femme de 28 ans ne compte pas s'éterniser dans son pays qu'elle avait quitté il y a déjà 6 ans.
Demain, immédiatement, je pars pour Saint-Domingue. Je ne vais pas rester en Haïti. On ne peut pas vivre ici. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de travail. Il faudrait faire comme les gangs, que je kidnappe des gens. Que vais-je faire?
Avant même la fin de leur enregistrement par les autorités migratoires haïtiennes, beaucoup des expulsés ne pensent qu'à trouver de l'argent pour à nouveau quitter leur pays. À Port-au-Prince, Amélie Baron, RFI pour France Inter.
Et la situation de ces migrants haïtiens inquiète aussi l'ONU ce matin. L'ONU qui parle de décisions contraires au droit international. Les Nations Unies réunies en Assemblée Générale cette semaine à New York, avec cette nuit les promesses climatiques de Pékin. La Chine va cesser la construction de centrales à charbon à l'étranger. Un tournant annoncé par Xi Jinping, même si le président chinois ne dit rien des centrales situées sur son sol, en Chine.
En France, 7h34, une quarantaine de départements sont repassés sous le taux d'alerte Covid. Faut-il, Alexis, adapter le pass sanitaire?
Question posée au Conseil de défense sanitaire ce matin, alors que oui, la situation continue de s'améliorer. Moins de 8600 personnes hospitalisées, 1740 en réanimation au niveau national. Le taux d'incidence est même redescendu à moins de 25 cas pour 100 000 habitants en Normandie ou encore dans les Landes. L'exécutif évoque déjà depuis plusieurs jours un possible allègement localisé des contraintes. Il sera aussi question aujourd'hui de la fin de vie, car s'il y a eu les lois Leonetti en France, leur mise en œuvre reste complexe et surtout très inégale sur le territoire, en particulier l'accès aux soins palliatifs. Les associations attendent donc de pied ferme le nouveau plan sur la fin de vie que va dévoiler Olivier Véran ce matin. Dans l'entourage du ministre de la Santé, on promet des moyens supplémentaires, mais aussi une volonté de diffuser une culture palliative dans notre pays. Véronique Julien.
Il y a eu des efforts au cours des 20 dernières années, mais en France, on meurt encore trop souvent mal accompagné et dans une souffrance physique et morale qu'on aurait pu atténuer. Malheureusement, seuls 30% des personnes qui devraient bénéficier de soins palliatifs y ont vraiment accès. Question de moyens, il n'y a pas assez de lits et ils sont très inégalement répartis sur le territoire. Question d'attractivité, le secteur palliatif fait fuir, on peine à y recruter. Les sous-effectifs pèsent sur la prise en charge, de même que la formation, pas toujours optimale des personnels. Enfin, il y a de la méconnaissance. Méconnaissance des structures, méconnaissance du droit. Malgré les lois Leonetti de 2005 et 2016, la volonté du patient est-elle vraiment respectée? La rédaction des directives anticipées réellement encouragée? Le plan qui va être annoncé ce matin doit proposer des moyens supplémentaires pour créer des lits, rendre le secteur plus attractif et surtout combler les disparités existantes selon les départements. Pour une meilleure formation, Olivier Véran veut aussi créer de vraies filières universitaires dédiées aux soins palliatifs. Il veut aussi que la fin de vie s'anticipe davantage et que chacun soit mieux informé de ses droits. Des lois existent, mieux diffusées et mieux appliquées, elles éviteraient de la souffrance.
Véronique Julia, la santé sur France Inter. L'opposition de droite dénonce déjà une euphorie dépensière. Le gouvernement présente ce matin son projet de budget pour 2022, le dernier du quinquennat donc. C'est la fin du quoi qu'il en coûte, assure Bercy. Pourtant, ces derniers jours, la liste des dépenses s'allonge. Dossier complet dans le journal de 8h. Pendant ce temps, un ministre en exercice au tribunal, c'est devenu rarissime ces dernières décennies. Alain Griset est cité à comparaître aujourd'hui à Paris pour déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine. Au moment de son entrée en fonction, le ministre des PME a omis de déclarer 170 000 euros à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. De l'argent placé sur un plan d'épargne en action, de l'argent qui n'était pas à lui, Jean-Philippe Deniaud.
L'erreur de déclaration d'Alain Griset concerne un plan d'épargne en action qu'il avait ouvert il y a 2 ans pour faire fructifier des fonds de la Confédération de l'Artisanat du Nord qu'il présidait. Opération réalisée avec l'accord de la Confédération, assure le ministre, mais ce n'est pas conforme à la loi, a estimé la Haute Autorité, de tels mouvements d'argent pouvant dissimuler un abus de confiance. 2 enquêtes judiciaires ont donc été ouvertes, une à Lille pour vérifier s'il y a eu une volonté d'enrichissement personnel et une autre enquête à Paris, celle qui porte sur les mensonges de sa déclaration de patrimoine et qui fait donc l'objet de ce premier procès. Depuis le signalement de la Haute Autorité, Alain Griset a remboursé les sommes qu'il détenait, évoquant une maladresse et indiquant que cette audience lui permettrait de s'expliquer et de montrer sa bonne foi. Mais cet après-midi, son avocat viendra seul au tribunal demander le renvoi du procès parce que son client est retenu pour d'autres engagements liés à sa fonction.
Les explications de Jean-Philippe Deniaud. La crise sanitaire a accentué les inégalités salariales entre les femmes et les hommes cadres. C'est ce qui ressort de la dernière étude de leur association professionnelle, l'APEC. L'écart de rémunération s'est creusé jusqu'à 15% l'an dernier. Les femmes cadres ont gagné 46 000 euros en moyenne en 2020 contre 53 000 pour les hommes. Quand les grands magasins se convertissent à la mode de seconde main, le vintage ou plus simplement le recyclage, des supermarchés s'y sont mis il y a plusieurs mois déjà, eh bien les prestigieuses enseignes du boulevard Haussmann à Paris se lancent aussi. Les galeries Lafayette ont déjà ouvert un espace dédié. Et aujourd'hui, c'est au tour du printemps d'inaugurer 1300 mètres carrés dédié à la seconde main, Agnès Soubiran.
Un sac de luxe en bon état mais qui ne vous plaît plus, vous pouvez l'apporter au printemps, même si vous l'avez acheté ailleurs. Et après authentification, le montant estimé du sac vous sera crédité sous forme de bon d'achat, à dépenser auprès de l'une des marques labellisées répondant à 22 critères d'éco-responsabilité ou dans l'espace vintage. Car pour Karen Vernet, directrice générale de l'offre printemps, tous les clients recherchent la pièce qui fera la différence.
Ils sont vraiment à la recherche de l'unicité. Trouver le produit qui n'existe nulle part ailleurs, ou alors prendre des produits qui émotionnellement, et on a tous chez nous des produits qui sont très importants pour nous dans notre histoire ou qui viennent de personnes qu'on a aimées ou voilà, et que l'on veut garder mais que l'on veut légèrement transformer.
Un service de retouche et de customisation est effectivement disponible sous la coupole Binet, joyau d'architecture et qui s'apprête à vivre une nouvelle révolution. Jean-Marc Belaïche, président du groupe Printemps.
Ces nouveaux modes de consommation, c'est un petit peu ce qui a pu se passer peut-être au début du XXe siècle lorsque ils ont dû se retrouver dans les salles du comité exécutif du printemps, à se dire il y a quelque chose qui s'appelle le prêt-à-porter. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? On a, je pense, un tournant qui est peut-être aussi fort que celui-là.
Un tournant que ne veulent pas manquer les grands magasins. Le marché de la seconde main enregistre actuellement une croissance 4 à 5 fois plus rapide que le marché traditionnel.
Agnès Soubiran, Service économie et social d'Inter.
7h40, des activistes en culotte courte à l'affiche d'un film documentaire en salle aujourd'hui.
Bigger Than Us, coproduit par l'actrice Marion Cotillard, il dresse le portrait de 7 jeunes activistes du monde entier. Tous ont commencé leur combat avant 12 ans. Ces gamins luttent contre le mariage forcé au Malawi ou contre l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis. La réalisatrice a voulu en faire un outil pédagogique pour les écoles. Le film est donc projeté depuis plusieurs jours déjà à des élèves un peu partout en France, comme ces collégiens d'Arcueil en région parisienne que Rémi Brancato a accompagné au ciné.
Avec ce film, la centaine de collégiens découvrent Melati qui lutte contre les déchets plastiques en Indonésie ou Memory contre le mariage des filles au Malawi. Après la projection, deux personnages du film sont présents, dont Mary Finn qui sauve les migrants en mer.
Elle a commencé quand à sauver des gens, Marie ?
J'avais 18 ans, j'ai quitté l'école et je suis allée en Grèce.
Est-ce que vous êtes des super-héros ?
Non, nous étions juste des gamins comme vous.
Car c'est bien le message montré à ces collégiens qu'on peut s'engager, même très jeune. Mohamed Al-Joundé, réfugié syrien, a créé, lui, une école à l'âge de 12 ans.
On a trouvé la force parce que c'était nécessaire. On était réfugiés au Liban, sans école. Alors on a décidé de créer un endroit pour les enfants et c'est devenu une école. J'avais 12 ans, bien sûr, beaucoup d'adultes m'ont aidé.
Forcément, les élèves sont captivés, impressionnés, comme Marion et Céline en troisième.
Ils défendent beaucoup, beaucoup de causes et ça donne envie de s'engager.
Je pense que le plus problématique, c'est le climat, mais en fait, il y a tellement de problèmes dans le monde que on ne sait pas sur lequel se focaliser.
C'est exactement ce qu'on voulait faire avec ce film, encourager l'engagement des jeunes. C'est super de voir que ça marche.
Et qu'il suscite aussi des vocations de militants pour des causes plus grandes que nous.
Bigger Than Us, réalisé par la française Flore Vasseur, c'est donc en salle pour tout le monde aujourd'hui.
Merci Alexis Morel. L'édito politique arrive.